Et bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio, la radio des Hautes-Garonne bien sûr, vous connaissez parfaitement le slogan, voilà on est ravis de vous retrouver comme chaque jour du lundi au vendredi pour notre journal en direct à midi, rediffusé à 15h à 18h, juste avant d'annoncer le sommaire d'ailleurs du journal de ce vendredi 27 février du magazine à suivre. Voilà, on va rappeler, hein, le siglage, c'est important, comment nous suivre, même si vous êtes des fidèles. La bande FM 411.3, déjà depuis le mois de juillet 1997, voilà, dans quasiment tout le département de la Gironde. Vous pouvez nous suivre via notre site odoradio.fr, voilà, qui vous donne bien sûr plein d'infos sur la vie de la radio, mais surtout la possibilité de venir entendre ou télécharger toutes nos émissions, services gratuits, bien sûr. Voilà, c'est le partage, et c'est vraiment très intuitif. Hein. Page d'accueil, menu déroulant. Vous avez les émissions classées par jour et à la date recherchée. Voilà, vous pouvez donc télécharger ou juste écouter. C'est selon. Et troisième moyen de nous suivre, si vous êtes en métropole bordelaise, hein, c'est le DAB ou DAB+, la radio numérique terrestre. Et là, on est également sur ce bouquet de radios, voilà, qui vous propose, qui vous offre voilà, le côté numérique. Voilà tous les moyens pour nous suivre. Allez, le sommaire tout de suite de ce journal, lancé vendredi 27 février. C'est Hugo qui va nous décliner quelques brèves d'infos d'ici quelques instants. Ravi de retrouver Joël Martin, vice-président de l'association pour un second souffle. Alors on va parler de l'association, bien sûr, qui est une association à but non lucratif dont le but est de promouvoir, aider, faire connaître la mucoviscidose. Il y a un spectacle demain de théâtre. Voilà, on en dira quelques mots, même si ça affiche complet. Et on est ravis également d'avoir Didier Mérigot, président du CMOB, la section athlétisme. Et là, le tube, hein, je crois qu'on dit comme ça maintenant. Hein. Le trail urbain de Bassins, voilà pour l'acronyme. Voilà, on va en parler à avec force détail, c'est le 14 mars et je crois que ça fichait complet, mais Didier va nous dire qu'il reste encore quelques dossards, mais on va prendre le temps d'en parler. Pour la partie musicale, bien beaucoup de concerts sur la droite, on est un petit peu chauvin puis c'est notre ligne éditoriale. Là j'ai choisi de mettre en avant un concert au Steady à Saint-Loubès, voilà, avec des groupes locaux, Moonback et White Carbons comme le nom l'indique, voilà, qui est un groupe de carbon blanc, et là on écoutera un des titres repris par les White Carbons. Et comme tous les vendredis, on va retrouver notre magazine juridique et social Défendez-vous, présenté et réalisé par Maître Paul Cessot. Et le thème abordé en ce vendredi 27 février sera le droit disciplinaire en droit du travail en entreprise. Voilà, je crois avoir été exhaustif sur cette partie-là. Et tout de suite, pour ouvrir notre journal, donc c'est Hugo qui va nous présenter quelques brèves d'infos. Bonjour Hugo.
Bonjour Joël, bonjour à toutes et à tous. Commençons les brèves du côté de Senon. Au Château du Diable, de 19h30 à 23h30, le vendredi 27 février, un tournoi de belote est organisé par les voisins de Bruno, merci. Les inscriptions commenceront à 19h30 pour un début à 20h. Au prix de 12 euros par personne, il est possible de participer. Si vous n'avez pas d'équipier, vous pourrez en trouver sur place. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter directement l'association. Toujours à Senon et toujours au Château du Diable, de 14h30 à 18h ce samedi 28 février, un loto aura lieu. Organisé par le comité d'animation du quartier Testo, le carton seul est à 2 euros, les 3 sont à 5 euros et les 8 sont à 12 euros. Il est possible de s'inscrire en contactant le comité via l'adresse mail comité.testo@gmail.com. Pour en terminer avec la ville de Senon, Marie de Sèvres organise un atelier miroir en vitrail à l'office culturel et d'animation de Senon. Le samedi 28 février, de 14h à 16h30, les participants pourront réaliser un miroir en vitrail et repartir avec à la fin. Il faut s'inscrire sur Hello Asso et payer 90 euros par personne. Le matériel est inclus et il faut avoir au minimum 16 ans pour prendre part à l'après-midi. Partons à Bassins maintenant. L'action Au fil des sarts de la ludothèque Au fil du jeu voit sa dernière journée. Après trois samedis avec des jeux d'exercice, des jeux symboliques et des jeux d'assemblage, ce dernier samedi du mois proposera une journée jeu de règles. De 10h à minuit, les participants, peu importe l'âge, pourront s'adonner à des tournois sur des jeux demandant une certaine stratégie. Aucune inscription n'est nécessaire et l'entrée est gratuite. Enfin, direction Florac et la médiathèque M270. Le samedi 28 février, à partir de 10h et pendant 2h, les familles pourront découvrir le travail de marionnettiste, un métier technique qui demande beaucoup de connaissances pour donner vie aux personnages. C'est ouvert pour toutes les personnes âgées de 8 ans et plus. L'entrée est sur inscription, mais elle est gratuite.
Allez, merci Hugo. Et tout de suite, bien sûr, on va accueillir comme il se doit nos invités du jour. Didier Mérigot, bonjour, bienvenue à Eau de Radio.
Bonjour Joël, merci de nous accueillir.
Voilà, mais c'est avec plaisir. Hein. C'est notre éditorial qui plus est. Puis là, on va parler de belles actions hein, qui plus est. Joël Martin, je ne vous oublie pas, donc vice-président de l'association pour un second souffle. Après, vous avez plusieurs casquettes autour du rugby, le fair play, quelqu'un d'engagé. Mais là, on verra par rapport à l'association. Et puis, il y a un lien aussi avec le trail. Hein. Donc, bonjour à vous également, Joël.
Oui, bonjour à tout le monde.
Alors, peut-être, il n'y a pas de chronologie. Si ce n'est par rapport aux événements, parce que Joël, la tempête va souffler, hein, oui. Mais c'est une belle tempête demain. Là, on est loin de Pedro, etc. Peut-être rappeler en quelques mots pour un second souffle, voilà, autour de qu'est-ce que la mucoviscidose. Rappeler en quelques mots, je sais qu'il faut chaque fois remettre du cœur à l'ouvrage et répéter, mais en quelques mots, la mucoviscidose et les objectifs poursuivi par l'association pour un second souffle.
Voilà, la mucoviscidose, tout le monde connaît maintenant parce qu'elle a été plus ou moins mise en avant par Grégory Lemarchal, qui était
le regretté
qui est décédé maintenant, qui est à la Star Academy. Et nous travaillons avec Pierre Lemarchal, avec le papa, et puis avec Vaincre la mucoviscidose, ça fait 13 ans maintenant. On a créé cette association pour un second souffle. C'est moi qui l'ai créé avec mon épouse, parce que nous avons deux de nos petits-enfants qui ont cette maladie. Et puis, il était important de faire une identité départementale, parce que c'est très bien d'avoir des associations qui sont nationales, mais je pense que décentraliser les actions et mettre en avant le travail qui est fait dans les départements, et c'est très important, et ça permet encore plus de sensibiliser auprès des gens et auprès des personnes le quotidien de nos patients. Alors c'est une maladie comme on dit, qui est toujours une maladie mortelle, faut dire le nom, hein, voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'on a eu depuis 4 ans maintenant un médicament, je dirais miracle, qui est arrivé, qui s'appelle le Kaftrio. C'est un médicament qui s'adapte à 80% des patients atteints de la mucoviscidose. Ce médicament, ce qu'il a, il a pour but, c'est de liquéfier le mucus qui était sur le poumon, qui est sur nos poumons. C'est-à-dire que les mucos, on a le mucus sur les poumons qui est très épais et qui se couche sur les cils de nos poumons ne pas balayer pour sortir tous les microbes, et c'est pour ça qu'ils avaient des cures d'antibiotiques à l'intraveineuse tous les mois ou tous les deux mois, et puis c'est comme ça qu'ils perdaient leurs poumons. Et là, avec ce médicament, il sert à fluidifier le mucus, ce qui permet maintenant qu'ils arrivent à éliminer une bonne partie de tous les microbes qu'ils respirent. Par contre, la maladie existe toujours. Après, il y a aussi, ça atteint les intestins, le foie et le pancréas, mais ça, ce médicament ne travaille pas sur ces endroits-là. Mais par contre, ils prennent toujours leurs médicaments, leurs 10, 15 ou 20 comprimés là-dessus. Mais ça leur évite maintenant de faire des séances de kiné tous les jours comme ils faisaient avant. Et surtout, ils ont récupéré de la capacité respiratoire. Je donne l'exemple de mon petit-fils qui a 23 ans. Quand on l'a découvert, il avait 8 ans. Il avait une espérance de vie de 6 mois. Quand on a découvert le Kaftrio est arrivé il y a maintenant 4 ans, il était en attente de greffe de poumon. Voilà, et puis ce Kaftrio est arrivé, il a fait partie des 100 premiers qui en ont bénéficié, puisqu'il a été donné pour toutes les personnes qui étaient en attente de greffe chez les jeunes en priorité. Voilà, il en a bénéficié, maintenant il a 90% de capacité respiratoire, alors il n'a plus besoin de faire toutes ces infections, mais par contre il continue à prendre tous ses comprimés sur foie et pancréas, mais aussi faire attention, et il faut qu'il fasse du sport aussi pour développer ses poumons, parce qu'ils ont eu des poumons qui ont été atrophiés, le fait d'être toujours des poumons qui ne travaillaient pas, de leur donner un peu vie, voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui a la mucoviscidose avec le Kaftrio a une espérance de vie entre 40 et 50 ans. Voilà.
Ce qui est énorme, hein, même si ce n'est pas suffisant.
Voilà. Sachant que nous avons encore 20% de malades atteints de cette maladie qui ne bénéficient pas de ce médicament, parce qu'il ne va que sur le delta 508, qui est une forme de mucoviscidose. toutes, il y a plusieurs formes de mucos, et les autres mucos, les autres qui ne sont pas le delta 508, toutes ces personnes-là, actuellement, il n'y a pas de médicaments qui font ce travail pour eux. D'ailleurs, on a toujours des gens qui décèdent parce que, on greffe des poumons, ça ne marche pas, ou ils perdent la vie parce qu'ils n'ont pas ça. Alors, la recherche se fait toujours. On a besoin d'argent pour la recherche. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que les gens ne se doutent pas, c'est qu'on on peut dire beaucoup sur notre pays. Alors moi, je ne fais pas de politique, mais ce que je regarde, c'est ce que le vit au quotidien. Il n'y a que deux seuls pays en Europe qui financent et qui remboursent le CAF-TRIO, c'est l'Allemagne et la France. Il faut savoir que le CAF-TRIO coûte 11 500 euros par mois pour une personne malade. Multiplié par 12, vous voyez un peu. Qui est-ce qui peut se payer ça ? Si on n'avait pas la sécurité sociale qui le finance, eh bien, on aurait un médicament, mais il y aurait que les gens très riches qui pourraient s'en servir, et tout le reste, et tous les autres resteraient au bord de la route et seraient condamnés. Voilà. Alors, il faut quand même dire que on est un pays où on fait attention aussi à nos patients.
C'est bien de le préciser, voilà. Même si encore voilà. Beaucoup de choses à faire.
Certainement. Mais il y a beaucoup de choses, on le sait aussi. Sûr, oui, c'est ce qu'on va faire aussi bientôt aussi.
Voilà. Alors voilà, mais c'était bien, Joël, de rappeler, bien sûr. Alors, pour cela, il y a des associations comme la vôtre, parce que ça contribue à la fois financièrement, mais c'est aussi, ça crée du lien pour les familles, parce que quand on découvre que son enfant a la mucoviscidose, je pense qu'on est désemparé, on a besoin d'avoir des ressources, un certain éclairage. Vous êtes passé par là, du coup, aussi. Donc ça, c'est important, c'est un des facteurs importants aussi,
oui,
au sein
important.
De l'association, de pouvoir réconforter, voir accompagner. Alors, vous n'êtes pas médecin, bien sûr,
non.
Mais vous connaissez toutes les étapes.
Nous, on est en relation avec Madame Buy, qui est la responsable en pédiatrie. Moi, je parle surtout en pédiatrie, parce que après, il y a ceux qui sont au CRCM, le Centre Ressources des Mucos, qui est au Lévesque pour les adultes, et les mineurs, ils sont tous au quatrième étage de l'hôpital des enfants de Bordeaux. Mais Madame Buy est une directrice fabuleuse et qui est toujours en contact avec tout le monde. Bon, les parents arrivent là, ils apprennent que leur enfant a la mucoviscidose, c'est un choc. Mais après, nous, ils nous mettent en relation avec nous, association, qui nous permet de faire rencontrer les familles avec des familles qui ont déjà des enfants et de voir l'évolution. Parce qu'entre ce qu'on vous dit à l'hôpital, parce que c'est très théorique, mais après, le quotidien est autrement. Et comme ça, ils peuvent parler avec d'autres familles et voir comment ils ont évolué avec leur enfant, avec la muco, et de pouvoir avoir des conseils de gens à la pratique quotidienne là-dessus. Voilà, c'est important. Et pour nous, ça nous a permis de lancer plein de choses et puis d'essayer à récolter des dons, oui, puisque le plus gros qu'on a fait, puisqu'on ne s'est pas vu depuis, mais ça a été novembre et décembre, on a fait 2 mois de paquets cadeaux au magasin King Jouet de Mérignac. Cette année, je dirais qu'on a crevé le total de nos dons, puisqu'on a dépassé les 11 000 euros de recettes. Mais il faut dire que c'est 45 jours non-stop, avec 3 personnes par jour de 10h à 19h.
Il faut saluer ce travail, bien sûr.
Moi, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont répondu, puisque c'est moi qui gérais tout ce dossier et les permanences. Remercier tous les bénévoles qui sont impliqués par ces 45 jours. Si on ne les avait pas eus, eh bien, on n'aurait pas ces 11 000 euros et qui vont nous servir à une belle chose. J'en reparlerai si on a le temps.
Bien sûr, c'est sûr, on a un petit peu de temps, mais là, on va juste dire quelques mots et puis on va voir avec Didier, mais il y a un lien aussi, bien sûr. Vous êtes des humanistes, hein, tous les deux, dans vos structures, des gens solidaires. Voilà, mais comment se connaît, ça je le savais. Alors juste, on va quand même dire 2 mots sur La Tempête, donc cette pièce de théâtre. Alors ça affiche complet, mais c'est bien quand même de dire quelques mots. Ça sera la salle des fêtes de Bassas à 20h, et ça permet de saluer la troupe qui vient. On va saluer bien sûr toutes les équipes, la municipalité qui met la salle, la logistique, la communication en disposition, la troupe Anoli de Sandrine Montferrand, hein, voilà. Qui viendra généreusement sur ce beau spectacle.
Hein. Voilà, mais c'est ce défi, on ne pensait pas avoir autant de monde, on a tout arrêté depuis 2 jours, j'ai dit on arrête complet parce qu'on ne peut pas dépasser la capacité de la salle.
Oui, il faut...
voilà, alors comment est venu ça? Alors vous voyez comme quoi le monde est petit, et puis je dirais que l'interassociativité dans notre commune à Bassens est importante. Je sais qu'Alexandre, le maire, essaie à le perpétuer, mais ceux qui doivent le perpétuer le plus, c'est les présidents et les responsables de l'association. Et nous, avec Didier, depuis maintenant presque 10 ans, on travaille ensemble, on échange, on fait plein de choses ensemble. Je dirais que chacun vit sa vie de son côté, mais souvent on vit des choses ensemble. Et il s'est avéré qu'à l'Assemblée Générale, l'année dernière, de l'association du CMOB Athlétisme, il y a un des athlètes du club qui est venu voir Sandrine, notre présidente, et qui lui a dit « Ah, mais vous savez, je fais l'athlétisme, mais aussi je joue dans une pièce de théâtre, je joue au théâtre. »
Je suis comédien aussi.
Je suis comédien, alors bon, oui. Et alors, eh bien, nous, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose avec notre troupe et faire quelque chose. Mais pourquoi pas ? On a pris contact avec Mme Cissé, qui est la réalisatrice, la metteur en scène de ce groupe. Et puis, on a arrêté au mois de novembre, de suite, une date, parce que pour avoir la salle des fêtes de bassin, c'est pas facile. On a dû arrêter une date, et puis on a travaillé là-dessus. Et puis, c'est avéré que c'est grâce à un licencié du club de l'athlétisme avec qui on travaille et qui nous a mis en lien avec eux. Il sera, demain soir, il fera pas l'athlétisme, mais il va jouer. Voilà. Mais si on n'avait pas eu ce lien avec quelqu'un qui est licencié athlétisme au CMOB, vers notre association, on n'aurait jamais cette soirée de demain soir où on sera plus d'une centaine. Et ce qu'on a décidé, c'est que c'est une entrée gratuite. Chacun donnera ce qu'il voudra, mais je pense que les gens sont généreux à partir du moment où on leur laisse l'opportunité de venir, mais à ce moment-là, ils donneront ce qu'ils voudront. Et je pense que c'était la meilleure des solutions. Et demain soir, je sais que déjà, athlétisme, ils sont une trentaine. Le groupe Azimut Rando, randonnée, ils sont une quarantaine. Et après, on a tout le reste, ce sont des gens de bassin, c'est des communes à côté, de Carbon-Blanc. On a des gens qui font du théâtre de Carbon-Blanc qui, de suite, se sont inscrits. Mais depuis 3 jours, j'ai arrêté. J'ai dit, on ne peut plus.
Respecter la jauge. Hein,
ah oui, voilà. Oui, voilà.
Vous allez
voilà.
Passer une belle soirée.
Voilà.
Je pense que les gens sont généreux parce qu'ils vont... Il y a une cause, il y a un but, voilà. In fine. Et puis, il y aura la qualité de la pièce
voilà,
de
théâtre.
Voilà,
et puis il y a le lien. Il y a le lien. Et comme j'annoncerai demain soir aussi, c'est que cet argent qu'on va récupérer va venir dans le pot commun de l'action qu'on va mener, puisqu'on va financer, et là j'en parle, puisque je laisserai la parole après pour le trail, mais on va financer les salles d'accueil au CRCM pédiatrique au 4e étage de l'hôpital des enfants de Bordeaux. On va financer à hauteur de 14 740 euros pour égayer les pièces d'accueil, les salles d'accueil où il y a nos patients malades. Parce que quand vous rentrez là-dedans, ce sont des pièces qui sont tout fermées, il n'y a pas de fenêtre, tout est blanc. Et quand vous avez des enfants qui arrivent, qui ont 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, et que vous avez les parents, vous êtes dans une pièce, tout est blanc, il n'y a rien qui vous sourit. Et là, on va avoir des grands panneaux lumineux avec des images de la dune du Pilat, des lacs des Pyrénées, des vignes de Saint-Émilion et de fleurs et tout ça. Eh bien, je pense que ça va donner un peu plus de joie à ces malades de venir dans un accueil, parce que le CHU ne peut pas financer tout ça. Eh bien, nous avons décidé, on a signé la convention la semaine dernière, on a donné déjà l'argent, et je pense que dans les 2 mois qui vont suivre, je pense que avril-mai, on va pour inaugurer ces locaux. Et c'est pour nous, ça sera du sens, parce que tout l'argent qu'on récupère, on l'a récupéré sur des actions en Gironde, puisqu'on est une action départementale. Et elle va être investie dans des locaux qui sont girondins, dans un hôpital girondin, et qui recevront des enfants de Gironde et d'autres départements de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà.
Très bien, Joël. On vous garde encore, hein, bien sûr, mais oui, c'était bien d'avoir le temps d'exposer. Alors, Didier, bien sûr, on a compris les liens. Je vois le logo, bien sûr, pour un second souffle. Et puis, le sport, c'est vecteur de tellement de belles choses. Donc, la solidarité en fait partie. Hein, donc, ce n'est pas la première édition ou la première action que vous menez ensemble. Alors, le trail urbain de Bassins, donc le tube, hein, comme ça permet de... Alors, on va commencer commencer par cela, parce que moi j'ai vu complet sur les affiches, comme pour le spectacle. Mais vous m'avez dit, Didier, non, il peut y avoir encore des dossards. Donc avant de développer, on peut s'inscrire. Mais c'est quel type de profil ? Parce qu'il y a plusieurs distances, etc. Donc pour ceux qui... Parce que comme c'est annoncé comme complet, alors pour ceux qui ne se seront pas inscrits, ça peut s'adresser à qui, sur quelle distance, quel profil ?
Alors oui, comme vous le disiez, Joël, c'est nous, on a eu une surprise très, très, très étonnante là, au 8 février. On a affiché complet puisque nous avions décidé de prendre pas plus de 500 inscriptions.
Ce qui est déjà éloquent. Hein,
ce qui est déjà éloquent, effectivement. Et d'autre part, c'était la jauge, pour nous, c'était la jauge maximale qu'on pouvait accueillir. On a discuté effectivement avec la mairie parce qu'on avait des demandes et le 8 février, on était à 5 semaines de notre course et donc on se posait la question de savoir si on devait ouvrir davantage ou pas avec les conséquences que ça peut avoir, la présence d'une équipe médicale, d'un médecin notamment. Donc il a fallu effectivement qu'on travaille là-dessus avec la mairie. Qui nous a autorisé par rapport à la jauge maximale, parce que vous savez que l'accueil est à l'espace Garonne, près du terminus du tram, là. Et donc par rapport à cette jauge maximale, on a eu l'autorisation d'ouvrir à 80 dossards supplémentaires. Ces 80 dossards, on avait une liste d'attente, là aussi tout aussi surprenante cette liste d'attente, puisque très rapidement les gens se sont mis sur cette liste. Et donc on a porté à 580 inscrits, et là aujourd'hui on a 560 personnes donc qui sont inscrites, et il nous reste donc une vingtaine de dossards. Ce matin, on a fermé le trail court, le trail de 10 km, on est à près de 300 inscrits, donc il a fallu qu'on ferme
là, cette épreuve-là. Il fallait trancher. Pour des zones d'accueil, de sécurité,
tout
etc.
Tout à fait. Et donc il reste effectivement la vingtaine de dossards à se répartir entre la marche nordique, donc qui est de 10 km avec un dénivelé de plus de 100, et le trail long de 20 km qui a un dénivelé de plus 300. De mémoire, le 20 km aujourd'hui, on a 230 inscrits, là où l'année dernière on en avait 115. Donc on voit bien l'engouement qu'il y a. D'ailleurs, on se pose la question, on essaie d'expliquer pourquoi cet engouement. Sans doute dû en partie au fait que la commission running du comité de Gironde a décidé de retenir dans son trail tour départemental, tous les ans ils retiennent 6 trails sur tout le département, et cette année ils ont décidé d'inscrire le trail urbain de Bassens, donc notre tube, de l'inscrire effectivement dans ce challenge. Et puis je pense que c'est une course à taille humaine, parce que finalement, même si on est 500, s'il y a 500 participants, ça reste une course à taille humaine qui se passe dans un espace accueillant, et ce, quelles que soient les conditions climatiques. C'est toujours agréable d'avoir un endroit où on peut récupérer de son effort. Et puis, je crois qu'on essaie de se démarquer par rapport aux autres courses par des récompenses qui sont plus importantes les années d'une année sur l'autre. Et puis, je crois que moi, il faut le souligner. Joël en parlait tout à l'heure, et il faut le souligner. On a ce partenariat avec l'Association pour un second souffle depuis 8 ans. C'est la 7e édition du trail. Hein. Je rappelle qu'on en a un qui avait été annulé, eu égard à la Covid. Et effectivement, ça fait 8 ans qu'on est là, et on reverse une grande partie de nos bénéfices à cette association-là. Je pense que cumulé depuis ces 8 années, on a dû dépasser les 6 000 euros. Donc c'est quelque chose, c'est un gros effort que nous faisons aussi. Et ces inscriptions-là, ce fait que ça se développe là, ça permet nous tous les ans de pouvoir donner un peu plus à la MUCO, et je trouve que c'est un super partenariat que nous faisons.
Oui, en 2025, ils nous ont reversé 1 200 euros. Pour nous, c'est important. Et puis pour eux, c'est important parce que c'est quand même un manque à gagner. Parce qu'on sait le problème des associations pour vivre, pour faire vivre les associations, surtout sportives, c'est de plus en plus compliqué parce que les aides sont de moins en moins importantes, autant que ce soit par le département et que par l'État. Vu la conjoncture, hein, c'est pas qu'ils ne veuillent pas, mais c'est les problèmes, ça. Mais je trouve qu'il y a très peu d'associations sportives qui reversent autant d'argent à des associations comme la nôtre, mais ça montre aussi l'interactivité que nous avons dans cette commune où on se serre les coudes et puis on a besoin les uns des autres, quoi.
Non, mais c'est important de le souligner, bien sûr, toute cette belle entrée solidaire. Alors là, il va nous rester 3-4 minutes, malheureusement à peine. Ce qu'on va dire, Didier, donc, c'est on peut encore s'inscrire donc, pour le 20 km ou la marche nordique. Oui. Alors, je crois que c'est un lien sur lequel il faut cliquer.
C'est un lien avec ProTiming. ProTiming, qui est notre société de chronométrie et voilà, donc on peut s'inscrire effectivement via ce site. Et je voudrais quand même juste profiter de ce moment-là que je partage là avec vous pour remercier. Moi, je voudrais saluer mon équipe. Je voudrais saluer cette équipe-là.
On parle des participants.
J'ai effectivement autour de moi, on est une dizaine entre les membres du bureau et les membres de ce que nous avons appelé le comité d'organisation, des gens qui sont investis complètement dans ça, aussi bien dans la recherche de partenaires que dans la définition du circuit, que dans le nettoyage du circuit. Enfin, c'est franchement un travail exceptionnel qu'ils font, et je voudrais vraiment, à travers cette antenne qui m'est donnée, vraiment les saluer, les remercier pour ce travail qu'ils font. Et je voudrais souligner que pour le jour du trail, donc trail qui se passe en semi-nocturne et en nocturne, hein, on insiste beaucoup sur la lampe frontale qui est obligatoire pour les coureurs. L'année dernière, il y en avait qui étaient venus sans ça. Je voudrais souligner qu'on a besoin d'une centaine de bénévoles. Aujourd'hui, il nous en manque encore une vingtaine. On aimerait bien, si vous avez envie de nous rejoindre toutes et tous, ben n'hésitez pas, vous nous contactez sur le site du club, le trailurbaincmob@gmail.com. Vous n'hésitez pas, vous envoyez votre candidature et vous serez retenu. Même si vous n'avez qu'une demi-heure, on vous positionne sur une partie du circuit et vous nous rendrez un grand service.
Voilà, Joël. C'est juste de tenir l'engagement, bien sûr.
Tout à fait.
Après, chacun donne en fonction du temps. Alors, si on veut avoir un petit peu plus d'infos, à la fois sur la section, parce que là, évidemment, on met cet événement, la section de Mont se porte bien, l'athlétisme, le CMOB.
La section se porte extrêmement bien cette année. Nous avons ouvert une école d'athlétisme. Nous avons été là aussi agréablement surpris. On a une quarantaine d'enfants qui nous a rejoint là à la rentrée. C'est extraordinaire. On a une très très belle piste et vous le savez. La mairie nous a offert ça au mois de juin, une très très belle piste. Et vraiment, on a tous les éléments pour se développer. Et je crois qu'on a pris un très beau virage cette année. Oui.
J'espère qu'on va président continuer. Avec toute son équipe.
Mais pour l'instant, oui.
Non, mais quand tu as des moyens, de l'engagement, de l'envie, puis la structure aussi, les infrastructures, c'est aussi important. Donc on va rappeler, on va le partager sur les réseaux. Donc on peut contacter bien sûr la section athlétisme du CMOB, ne serait-ce que par le site de la ville. Et pour le trail, on partagera. Il y a encore quelques dossards. Voilà, Didier, merci. On n'aura pas
merci.
Pu tout.
Merci.
Joël, je vais me tourner vers vous. Si on veut vous soutenir, parce qu'on voit toutes les belles actions que vous menez avec ces objectifs, un particulier, une entreprise peut vous soutenir financièrement. C'est à partir où c'est de l'argent privé, on peut.
Tout à fait. Après, si nous, public... on fait les CERFA comme on fait. Mais on a le billet en boisson qui nous offre tous les ans lors des manifestations, comme demain soir, des boissons gratuites, ce qui nous permet de faire 100% de bénéfices. Après, on a des partenaires comme Sedge, le groupe Sedge qui nous aide beaucoup, puisque cette année, ils ont participé, 34 personnes ont participé au paquet cadeau la semaine. D'où ça veut dire, c'est des personnes sur leur temps de travail qui sont venues participer au paquet cadeau et payées par l'entreprise, par la fondation. Je trouve que c'est formidable. Et ça serait bien que les entreprises prennent un peu de temps et donnent, si chaque entreprise payait un jour à leur employé pour aller s'impliquer dans une association humanitaire dans notre département, Imaginez-vous les heures et le temps que ça donnerait à ces associations d'être plus fiables et de donner plus aux autres. Voilà, ça, il faut le faire. Et c'est vrai, une journée, qu'est-ce que c'est une journée ? Payer une journée. Et nous, en même temps, on fait un CERFA, comme quoi c'est déductible des impôts. Voilà.
On peut défalquer. Voilà. Je vais arriver.
Défiscaliser.
Merci. Voilà. Je me doutais que je commençais mal. Joël Martin, merci.
Rappelons, le 14 également. Mars, c'est
le
trajet.
Oui, mais je vais repartager sur le réseau. Et on n'oublie pas que demain, il y a ce spectacle. Bon, voilà. On s'affiche complet. Donc oui, là, oui. C'est pas la peine de venir.
Non.
C'est une jauge à respecter.
Là,
oui,
non, je suis obligé à dire aux gens, mais revenez nous voir. Mais le 14 mars au trail.
Voilà. En tout cas, merci tous les deux. Je sais que vous n'avez pas pu tout dire. On est sur un temps court, mais ça rediffuse, c'est accessible en replay. Puis on va partager via les réseaux sociaux. Mais merci pour cet engagement. Merci. Et puis au travers de vos voix, bien sûr, vos associations respectives et toutes vos équipes. Allez, merci de ce beau moment de partage. Allez, je remercie Elliot à la régie technique. Merci Hugo pour les quelques brèves. Allez, dans quelques instants, vous allez retrouver le magazine Juridique et sociale, défendez-vous, présenté, réalisé par Maître Paul Cesseau. Et là, pour la pause musicale, voilà, on va continuer sur l'ancrage local. Alors, je sais qu'il y a plein d'autres concerts, certains sont à guichet fermé, donc autant, j'allais dire, mettre en avant des soirées comme ce vendredi soir au Steady à Saint-Loubès. Il y aura deux groupes locaux, dont les White Carbon, c'est comme le nom l'indique, voilà, de Carmen Blanc et Moonback, deux groupes pour partager l'affiche. Donc, ça va être ambiance. Reprise voilà, de groupes rock des années 70-80, donc tout le monde pourra danser, fredonner. Voilà, donc c'est ce soir au Steady. Et là, pour le White Carbon, c'est bien. On a fait une sélection, on a tout un tas, dit comme ça, on a beaucoup de morceaux dans notre base de données. Allez, les White Carbon, ça va en concert de ce soir au Steady et en suivant le magazine juridique et social. Défendez-vous.
Don't you Le magazine juridique et social, défendez-vous, présenté par Maître Paul Cesseau.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur Eau Radio pour votre magazine du vendredi midi, défendez-vous. Et cette semaine, nous allons faire un petit topo sur le droit disciplinaire. Autant que le temps qui nous est accordé nous le permet. Quand je dis droit disciplinaire, c'est droit disciplinaire en droit du travail, c'est-à-dire au sein de l'entreprise. Puisque on sait que l'employeur a un pouvoir disciplinaire qui lui permet de sanctionner les faits qu'il considère comme fautifs ou qui sont fautifs au sein de l'entreprise. Alors quand on parle de droit disciplinaire, cela peut aller de la sanction simple, l'avertissement, jusqu'au licenciement. On verra tout à l'heure un petit peu les différentes sanctions et surtout la définition de la sanction disciplinaire. Mais bon, au point de départ, il faut qu'il existe une faute. Une faute qui justifie le licenciement. Donc il y a différentes règles ici à respecter, sachant d'abord que la faute doit être imputable au salarié. J'aborde régulièrement des décisions de la Cour de cassation sur ces problématiques. La faute doit être imputable au salarié, donc on ne peut pas être licencié pour des faits qui sont commis par, par quelqu'un d'autre. On ne peut pas être licencié non plus pour des faits qui relèvent de la vie privée. Et il faut donc que ce soit imputable au salarié et que cela... que ce soit dans le cadre professionnel. Alors, on a vu au gré des différentes décisions de la Cour de cassation que je commente tout au long des émissions que il pouvait y avoir des appréciations avec des limites, des frontières parfois un petit peu floues, voire poreuses. Mais les principes existent et dans la plupart des cas, il n'y a pas de difficulté pour déterminer si le motif est imputable ou pas au salarié. Et il ne peut pas y avoir de sanction non plus pour des motifs prohibés, donc il n'y a pas de faute. Par exemple, une sanction qui serait fondée sur une discrimination, sur une violation de liberté du salarié. J'avais évoqué récemment, en début d'année, la question de la liberté d'expression des salariés dans l'entreprise et de sa limitation. Impossibilité non plus de licencier pour un refus de pour une opposition à un harcèlement. Nous avons là des motifs prohibés de sanctions qui ne seront. Donc il n'y aura pas de faute. Donc après, on va distinguer, on va dire, la faute simple. Elle va nécessairement se graduer dans la mesure où cette faute simple peut aller jusqu'à constituer quand même une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais peut ne justifier le cas échéant qu'un avertissement. Pour prendre la sanction qu'on va considérer comme étant la moins élevée et la sanction une sanction qui est importante, qui est donc la rupture du contrat de travail. Mais bon, c'est pour la distinguer des autres fautes graves et lourdes qui, elles, existent dans le cadre du licenciement. Puisque ce que je dis vaut pour toutes les sanctions disciplinaires, donc ça peut valoir aussi pour le licenciement, tout licenciement n'étant pas nécessairement disciplinaire. Puisqu'il peut y avoir un motif économique, par exemple, comme il peut y avoir un licenciement pour inaptitude, qui n'ont donc pas de motif disciplinaire. Donc la faute qui est qualifiée de simple, mais qui peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement dans le cadre de la procédure, dans le cadre d'un licenciement. Après, on a la faute grave et qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits qui sont imputables aux salariés, comme je l'ai déjà indiqué, qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Alors, là, la conséquence va être le licenciement, donc à partir du moment où l'employeur retient une faute grave, ça va être le licenciement, avec pour conséquence la privation de l'indemnité de licenciement auquel le salarié a droit quand il y a un licenciement pour cause réelle et sérieuse, et la privation de l'indemnité et la privation du préavis. Donc il faut distinguer la privation du préavis avec la dispense de préavis qui peut exister dans un licenciement pour faute simple, pour cause réelle et sérieuse. Il peut y avoir une dispense de préavis. Là, le préavis n'est pas effectué mais est réglé, tandis que dans le cadre de la faute grave, il n'y a pas de préavis, donc le préavis n'est pas effectué et n'est pas réglé. Il y a pour autant quand même droit à l'indemnité de retour à l'emploi, donc à la prise en charge par le chômage, contrairement à une idée reçue. La preuve, quand on est devant le conseil de prud'homme, j'empiète un peu sur ce que j'aurai à dire plus tard, la preuve incombe ici à l'employeur. Et nous avons au-dessus la faute lourde. La faute lourde qui est une faute d'une particulière gravité qui révèle l'intention de nuire de la part du salarié. L'intention de nuire, c'est même pas seulement une faute intentionnelle, c'est une faute avec intention de nuire. Par exemple, le salarié qui va détruire les disques durs de l'entreprise dans le but que celle-ci ne puisse plus travailler parce que tout était sur les disques durs des ordinateurs. Par exemple, après tout est aussi une question de circonstances. Mais il faut une intention de nuire. La conséquence est que le salarié est encore privé du préavis, pas de préavis, pas d'indemnité de licenciement. Autrefois, parce que c'était jusqu'à une dizaine d'années, ou jusqu'à 10 ans, 2016 de mémoire, une décision du Conseil constitutionnel qui est venue mettre fin à un régime qui existait antérieurement. La faute lourde avait pour effet à l'époque de priver le salarié également de l'indemnité de congé payé, c'est-à-dire que vous étiez en avril, donc à la fin de période d'acquisition des congés payés, vous perdiez l'indemnité de congé payé. Donc ce qui pouvait être une sanction, une conséquence supplémentaire qui pouvait être particulièrement lourde. Maintenant, ce n'est plus le cas. La différence du coup entre la faute grave et la faute lourde est que la faute lourde peut permettre éventuellement à l'employeur de faire jouer la responsabilité civile, d'engager la responsabilité civile du salarié et donc d'obtenir réparation, tandis que la faute grave ne le permet pas, même intentionnel, puisqu'on a vu que il faut que la faute lourde est une intention de nuire. Le caractère intentionnel n'est pas en soi suffisant. Alors ensuite, quelles sont les sanctions ? Alors, les sanctions, en fait, vous avez une définition qui est donnée par l'article L1331-1 pour les curieux du Code du travail, qui nous indique donc que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié, considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Donc, en fait, ça va être indépendant de la mention qui peut figurer dans la lettre que l'on reçoit. Bon, si on reçoit une lettre en disant « je vous adresse une sanction disciplinaire, enfin, vous êtes licencié », bon, voilà, ça va être une sanction disciplinaire, mais vous pouvez avoir des lettres qui ne mentionnent pas expressément « sanction disciplinaire », mais qui peuvent quand même être considérés comme étant des sanctions disciplinaires à partir du moment où on a une mesure qui est prise par l'employeur à la suite d'un agissement qu'il considère comme fautif et qui est de nature à affecter immédiatement ou non, mais en tout cas de nature à affecter la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une lettre de reproche en substance et qu'il en ressorte qu'il y aura une implication sur la présence du salarié dans l'entreprise à terme ou pas. C'est-à-dire que s'il est mentionné que nous vous invitons à reproduire les faits ou plus clairement encore, cela sera mentionné à votre dossier disciplinaire, cela peut suffire pour caractériser l'existence d'une sanction disciplinaire. Alors là, il peut y avoir des débats sur ces questions-là pour savoir si oui ou non il y a une sanction disciplinaire. Certaines sanctions sont interdites, des sanctions pécuniaires, les amendes et les sanctions pécuniaires sont interdites formellement. Donc là, la sanction est immédiatement annulée. Alors, ça peut être tout ce qui va avoir un caractère pécuniaire, donc les retenues pour mauvaise exécution du travail, des réductions ou des suppressions de gratifications qui sont en lien avec des fautes reprochées aux salariés, une retenue sur salaire en rapport par exemple avec l'utilisation d'un téléphone professionnel, la suppression illicite d'un avantage en nature, tout ce qui est directement ou indirectement directement une sanction disciplinaire, une retenue sur salaire, on va dire, ou sous une forme d'amende. Mais il y a l'illicité de la sanction disciplinaire particulière qui est la mise à pied disciplinaire, puisque le travail ne va pas être exécuté, la contrepartie du travail et le salaire. Et donc là, il est légal de prononcer une mise à pied disciplinaire, même si elle a du coup indirectement une incidence sur la rémunération. Qu'est-ce qui peut être prononcé comme sanction? On va avoir classiquement avertissement, blâme, parfois avec une notion d'inscription, sans inscription au dossier, mise à pied disciplinaire, donc dont je viens de parler, qu'il ne faut pas confondre avec la mise à pied conservatoire. La mise à pied conservatoire est la période pendant laquelle, avant le prononcé de la sanction, l'employeur va décider que le salarié va faire l'objet d'une mise à pied conservatoire. Le sort de cette du paiement de cette mise à pied dépendant de ce qui se passera après, c'est-à-dire soit, donc là c'est pendant le cadre de la procédure de licenciement, de la procédure disciplinaire, mise à pied conservatoire, le salarié, soit il y aura un licenciement pour faute grave, à ce moment-là une mise à pied conservatoire ne sera pas réglée, soit il n'y aura pas de licenciement pour faute grave, à ce moment-là, la mise à pied sera réglée quand bien même le salarié n'ait pas travaillé puisque c'était du fait de l'employeur. Mais donc il ne faut pas confondre mise à pied disciplinaire, mise à pied conservatoire. La sanction peut être donc le licenciement, licenciement simple pour cause réelle et sérieuse, licenciement pour faute grave, licenciement pour faute lourde, évoqué tout à l'heure. Deux points évoquer encore, la question de la prescription des faits, la question des prescriptions. Prescription des faits, la prescription est de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. L'employeur, alors dans les petites entreprises c'est simple, dans les entreprises plus grandes, on va considérer que ça va être le supérieur hiérarchique direct à partir du moment où celui-ci a eu connaissance des faits. Donc ils sont considérés comme étant connus par l'employeur qui alors a 2 mois pour engager la procédure de licenciement. Il ne peut pas engager la procédure de licenciement postérieurement. Alors il peut y avoir suspension de cette prescription. Par exemple, en cas de, par exemple, en cas de procédure pénale. Mais le fait que le salarié soit malade ne suspend pas cette prescription, ni même a été jugé, de l'incarcération du salarié. Donc il n'y a pas de majoritairement, il n'y a pas de suspension de cette prescription. Donc l'employeur doit agir rapidement à partir du moment où il a eu connaissance des faits. Et c'est quand même une connaissance complète. Il y a également une prescription de la sanction. La sanction, donc là, c'est-à-dire la sanction une fois prononcée. Donc va se prescrire au bout de 3 ans. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être invoqué à l'appui de nouvelles sanctions. Alors attention, pas confondre cette question-là et la question de la règle non bis in idem, c'est-à-dire de l'impossibilité de sanctionner deux fois les mêmes faits. On ne peut pas sanctionner deux fois les mêmes faits. On peut sanctionner des faits similaires successifs. Mais par exemple, quelqu'un qui commet une faute le 20 février 2026 et qui est sanctionné pour cette faute-là ne pourra pas être sanctionné à nouveau ultérieurement pour ces faits-là. Par contre, les mêmes faits qui ont fait l'objet d'une procédure disciplinaire peuvent venir à l'appui de la gravité de la sanction prononcée en conséquence de faits nouveaux et qui ont été commis. Donc on voit là la différence. Donc c'est là que s'inscrit la question de la prescription de la sanction. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure, pour les entreprises d'au moins 50 salariés, l'échelle des sanctions doit être prévue dans le règlement intérieur et on doit se tenir à l'échelle des sanctions qui est prévue dans le règlement intérieur. Voilà. Alors ensuite, au niveau de la procédure, alors on va distinguer les sanctions les moins importantes avec des sanctions plus graves. En rappelant que quand il y a une période d'essai, quand on est dans la période d'essai, l'employeur peut rompre le contrat. Pour autant, s'il invoque un motif disciplinaire, il faut qu'il respecte la procédure disciplinaire. Mais hors période d'essai, il faut respecter la procédure disciplinaire. Il va y avoir la procédure pour les sanctions mineures, c'est-à-dire pour l'avertissement. Il n'y a pas d'entretien préalable obligatoire. Par contre, pour le blâme, pour les autres, il va falloir qu'il y ait un entretien préalable, c'est-à-dire que le salarié est convoqué un entretien préalable avec. Donc c'est une convocation écrite qui mentionne l'objet de l'entretien, c'est-à-dire que quand en fait l'employeur envisage d'aller jusqu'au licenciement, il doit mettre une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Donc il mentionne donc la date, l'heure et le lieu de l'entretien et la possibilité pour le salarié d'être assisté. Alors il est quand même toujours bien lors de l'entretien préalable d'être assisté dans les cas où dans les cas où on est convoqué pour éviter à titre probatoire et puis pour éviter aussi pour apaiser peut-être un peu les choses et le contenu de l'entretien et puis on pourra avoir récupéré ensuite une attestation de ce qu'il se passe. Pourquoi ? Parce que lors de l'entretien préalable, l'employeur ne doit pas prendre de décision. Il doit exposer les faits, le salarié répond, et ensuite l'employeur prendra sa décision. C'est là qu'on a deux délais qui vont courir. Suite à l'entretien préalable, l'employeur ne peut pas prendre des décisions avant un délai de 2 jours ouvrables au minimum après l'entretien préalable. Ce qui constitue au final un délai de réflexion, et l'employeur ne peut pas envoyé la lettre de sanction plus d'un mois après le jour de l'entretien, même donc, quelle que soit la sanction, même si c'est un licenciement. Sinon, eh bien, ça c'est une règle quand même de fond. Du coup, la rupture, enfin, la sanction disciplinaire étant considérée comme étant infondée si cette règle n'est pas respectée. Sachant que, d'une manière générale, on considérera qu'il n'y a pas de suspension, même si le salarié était absent à l'entretien préalable au licenciement. Étant précisé que quelquefois il y a des conventions collectives qui prévoient des procédures particulières qui se surajoutent, par exemple la convocation devant un conseil de discipline qui se surajoute à la procédure légale, et dans à ce moment-là, ce délai-là sera suspendu pendant le cours de cette procédure conventionnelle. Donc voilà, et donc bah, ensuite l'employeur va envoyer une lettre de sanction. Alors, la lettre de sanction doit être motivée et elle doit mentionner les motifs de la sanction, qui plus est si c'est un licenciement, et nous indiquer la sanction qui est prononcée évidemment, mais pourquoi. Ensuite, cette sanction peut être soumise. Alors, quand on conteste, bon, si on ne conteste pas, on ne conteste pas, mais si on conteste, en tout cas si on n'est pas d'accord, il est toujours judicieux d'envoyer une lettre de contestation. Plus ou moins longue selon le cas, et peut-être de commencer à se faire assister à ce moment-là, en tout cas, dès que ça vaut le coup, dès que la sanction est importante, par exemple pour le licenciement, mais c'est bien après, quand on revient devant le conseil de prud'homme, qu'il y a eu une contestation qui était faite par le salarié par courrier, en disant « vous m'avez adressé telle sanction, je ne suis pas d'accord pour telle raison, car par exemple je n'ai pas commis les faits que vous me reprochez ». C'est toujours bien lorsqu'on arrive ensuite devant le conseil de prud'homme qu'il y ait une contestation du salarié au préalable, même si ce n'est absolument pas obligatoire. Donc le contrôle juridictionnel se fait devant le conseil de prud'homme. La procédure classique, on passe par la tentative de conciliation et puis le jugement au fond. On a déjà fait quelques émissions sur le sujet, sur la procédure devant le conseil de prud'homme. Le dit conseil de prud'homme qui apprécie donc la régularité de la procédure, mais qui procède aussi à un contrôle au fond, et donc qui vérifie si les faits reprochés aux salariés sont de nature à justifier une sanction. Niveau probatoire, le code du travail nous dit que l'employeur fournit au conseil de prud'homme les éléments retenus pour prendre la sanction, et que le conseil de prud'homme se prononce au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ces allégations. Le conseil formant sa conviction au vu de l'ensemble de ces éléments et éventuellement en ordonnant toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Donc c'est des... Ça peut être des expertises, ça peut être des auditions des parties, ça peut être des déplacements sur les lieux. Alors, pour être honnête, il y a longtemps que je n'ai pas vu de déplacement sur les lieux ou d'audition de témoins devant le conseil de prud'homme, mais cela existe. Une vingtaine d'années, ça m'arrivait, il m'arrivait régulièrement d'y aller. On se déplaçait dans l'entreprise où on faisait le conseil de prud'homme, convoquait toutes les personnes qui avaient fait des témoignages, ce qui n'était pas inintéressant, malgré le temps que cela engage, n'était pas inintéressant, car on se rend compte quand même de la différence qu'il peut y avoir entre témoignage écrit et puis un témoignage verbal, et qui peut varier, les deux pouvant varier considérablement. Certains témoins d'ailleurs ne se présentent pas. C'est possible, mais ça ne se fait plus trop, et le texte nous précise que si un doute subsiste, il faut aussi profiter au salarié. Ça joue donc également pour le licenciement. Je l'ai dit tout à l'heure, en matière de faute grave, la charge de la preuve va incomber, donc faute lourde va incomber à l'employeur. Ensuite, en conséquence, le conseil de prud'homme, et donc le conseil de prud'homme aussi vérifier la proportionnalité de la faute par rapport à la sanction par rapport à la faute. Donc tout va dépendre de beaucoup de circonstances. Donc, quelles sont les décisions que peut prendre le conseil de prud'homme? Il peut dire procédure irrégulière, il peut dire sanction disproportionnée, il peut dire sanction nulle, comme je l'ai indiqué, par exemple pour un motif prohibé ou illégal. Il peut dire que absence de cause réelle et sérieuse, absence de faute grave, s'il y a un licenciement pour faute grave. Et donc là, en ce moment-là, en requalifiant le licenciement de faute grave en cause réelle et sérieuse, ce qui entraîne le paiement de l'indemnité de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, si tant est que le salarié puisse y avoir droit. Alors, petite spécificité, si il y a un vice de forme, dans l'absolu, l'employeur pourrait reprendre la procédure. La difficulté, c'est que il reste tenu par les prescriptions et que le temps que tout se passe devant le conseil de prud'homme, il y a des prescriptions qui ont déjà couru. Donc cela reste assez aléatoire à mettre en œuvre. Voilà. Sur ce, sans avoir été totalement exhaustif, la majorité des points ont été abordés, qui permet de voir un petit peu comment ça se passe en matière disciplinaire. Bon, de manière générale, il convient vraisemblablement de se faire conseiller quand une procédure est engagée et pour la suite également lorsqu'on veut aller jusqu'à la contestation de la sanction qui a été prononcée. Voilà, sur ce, bon week-end à tout le monde et à très bientôt.